remettons cet avant-midi dans les mains du Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle église et toutes les belles ressources qu'il y a ici à l'Assemblée. Merci pour l'équipe de louanges qui vraiment a élevé nos cœurs dans ta présence ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce beau temps de louanges. Merci pour les moniteurs, mais les monitrices aussi également. On te prie pour les enfants ce matin. On te prie pour tous ceux qui travaillent, de près ou de loin, pour ici, pour l'Assemblée, pour ton œuvre, faire avancer ton œuvre. Merci, Seigneur. Et on te prie que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs par la puissance de ton Esprit Saint. Et on te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai une question pour vous autres. C'est surtout une question pour les jeunes, en fait. Là. Je sais pas pourquoi, mais les jeunes adultes ont tendance à s'asseoir dans ce bout-là. Là. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes un peu partout. Là. Mais j'ai une question pour vous autres, les jeunes. Mais quand on parle de jeunes, je parle, moi, de secondaire, cégep, université, au marché du travail, tous les jeunes adultes là, jusqu'à 30 quelques années. Là. J'ai une question pour vous autres. Comment on dit ça, un gars ou une fille? On va dire une fille. Mettons qu'une fille brise, alors moi, je viens d'employer un terme. C'est quoi le terme que les filles prennent quand ils veulent rompre une fréquentation? Alors, parle-moi de ça. Aujourd'hui, en 2025, c'est quoi le terme? Là? Hein? Comment? Tu casses. Oui, d'autres? Non? T'en parles pas fort, là. Parce qu'ils fréquentent pas les autres, c'est comme. Moi, j'ai entendu plusieurs expressions, peut-être même plus à Montréal, toutes sortes d'expressions que j'ai entendues. Vous me direz si vous avez entendu. Là. Elle lui a donné son 4%. Peut-être pas ici, en tout cas, vous comprenez, c'est ça. Elle l'a floché. Hey, ça, mon ami, j'ai entendu souvent. Là. Elle l'a laissé. Moi, j'ai bien des enfants, puis j'ai bien des jeunes et tout ça. Là. T'sais, on a 20 petits-enfants, donc on a pas mal tous les âges. Donc, on entend toutes sortes de choses quand on va les visiter. Elle l'a dumpé. Hein? On dit ça? Non? Hey, j'en ai entendu une. J'aime tellement celle-là. Hey, je trouve ça original. Je sais pas, vous lèverez la main là, si jamais vous avez entendu ça, mais je trouve ça génial. Elle lui a fait un ghost soft. Non? Personne? Personne n'a entendu ça? Hey non, je trouve ça génial. C'est pour dire qu'elle s'est éloignée subtilement sans faire de drame. Non, non, mais apprenez ça, les amis. Ça vaut la peine. C'est vraiment bien. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y avait une fille qui s'appelait Marie. Elle s'appelle Marie. Puis justement, elle fréquentait quelqu'un, mais là, elle vient juste de laisser son chum, Jimmy. Le hic, c'est qu'ils étaient fiancés. Elle était fiancée avec le gars. Puis là, elle venait juste de rompre ses fiançailles avec le gars. Aïe, aïe, pauvre gars, là. Ça a dû être dur pour le gars. Mais pas longtemps après, là, elle est vraiment proche, là. Elle lui écrit une lettre qui disait à peu près ceci. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point je me sens brisé depuis qu'on s'est laissé. Je t'en supplie. Reprends-moi. Personne ne pourra jamais te remplacer dans mon cœur. Pardonne-moi d'avoir tout gâché. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Trois fois. Je t'aime pour toujours. Signé Marie. Et juste en dessous, il y avait une petite note. PS, c'est écrit, en passant, félicitations pour avoir gagné à la loterie. Je sais pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Aurais-tu repris avec Marie? Je pense qu'on peut se permettre de dire que c'est pas tout à fait le gars qui l'intéressait, mais c'était le cash qui venait de gagner à la loterie. Maintenant, je ne pense pas que c'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a parlé d'amour dans sa parole. Hein? On est en train de regarder la première lettre de Jean, et puis, comme on l'a déjà dit, Jean parle très souvent de l'amour. Mais ce qui est intéressant à travers cette lettre, c'est une courte lettre, mais à travers cette lettre, Jean va aborder l'amour sur différents angles, différents aspects. Avec Jean, l'amour, c'est pas juste un mot. Il se contente pas juste de parler d'amour. L'amour, pour lui et pour le Saint-Esprit qui inspire cette lettre, est comme un trésor qu'il dévoile petit à petit au cours de cette lettre. Et ce matin, on va voir justement une autre facette de cet amour au chapitre 4 dans 1 Jean. Alors, 1 Jean, chapitre 4, on va lire à partir du verset 7. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez venir me joindre. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son Esprit Saint. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous, nous avons connu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Maintenant, si on revient au début du passage, au verset 7, ça c'est le message de Jean à travers tout ça. Il dit « bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » C'est un appel, c'est un commandement. Et d'ailleurs, il va le répéter au verset 21. Il dit « voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Alors Jean nous fait cet appel, ce commandement de Dieu. Il dit « aimons-nous les uns les autres. » Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner de bonnes raisons pour le faire. Et il commence en nous disant « aime comme tu crois. » Au verset 7, dit « bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, aime comme tu crois. » En d'autres mots, aimer, c'est prouver qu'on connaît Dieu. L'amour authentique, c'est pas une option, c'est une signature des vrais enfants de Dieu. Ta relation avec les autres révèle ta relation avec Dieu. Notre manière d'aimer les autres va refléter la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Ce que Jean est en train de nous dire, c'est que la façon dont on se traite les uns les autres dans l'Église révèle quelque chose de bien plus profond. Ça révèle notre véritable vision de Dieu. Ça révèle le genre de Dieu auquel on croit. En d'autres mots, ce qu'on croit, c'est-à-dire notre théologie, nos convictions à l'égard de Dieu, ça ne reste pas dans notre tête. Ça va avoir un impact dans nos relations. Croire à l'Évangile, ça va paraître dans notre douceur, par exemple, notre patience les uns envers les autres et notre amour les uns envers les autres. Le verset 7 nous dit « aimons-nous les uns les autres ». Vous voyez cette expression-là, « les uns les autres », ça revient très souvent dans le Nouveau Testament, d'ailleurs une centaine de fois, on les compte. Puis une cinquantaine de fois concerne spécifiquement les relations entre chrétiens. Vous avez remarqué, ça a commencé bien aimé. Ça parle à des chrétiens ici. Jean s'adresse d'abord à une petite église dans un village ici qui se trouvait là. mais ça s'adresse à nous, évidemment. Ça montre l'importance de la vie de l'Église, de notre communauté, de l'amour fraternel dans l'Église. Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, un peu comme « supportez-vous les uns les autres », Éphésiens 4, 2. « Exhortez-vous les uns les autres ». « Pardonnez-vous les uns les autres », Éphésiens 4, 32. « Accueillez-vous les uns les autres », Romains 15, 7. « Servez-vous les uns les autres », pas dans le sens « va me servir de toi », mais « servez-vous », mettez-vous au service des autres, Galates 5, 13. « Saluez-vous les uns les autres », Romains 16, 16. Alors, l'expression revient une centaine de fois, mais au moins 59 fois, directement adressée à l'Église pour justement unir les relations entre membres de l'Église. Ça montre à quel point les relations entre chrétiens, c'est central dans la vie d'un disciple. On ne vit pas l'Évangile en solo. La foi se vit dans le « nous ». Il y avait un jeune homme qui avait des questions. Alors, il y avait une question en particulier. Alors, il est allé voir un monsieur âgé dans l'Église. Et puis, cet homme-là avait plusieurs années dans le Seigneur, beaucoup d'expérience. Et c'est un homme consacré, très mature dans sa foi. Un homme qui était reconnu dans l'Église pour être une personne assez sage. Donc, le jeune est allé le voir, puis lui a demandé, le monsieur âgé s'appelait monsieur Gérard. Alors là, il est allé voir ce monsieur-là, puis il a dit, monsieur Gérard, pourquoi dans le Nouveau Testament on retrouve si souvent le commandement les uns les autres? Ah, répond le monsieur, il dit, c'est bien simple. C'est parce que Dieu savait qu'on allait être pris ensemble pour pas mal longtemps. Le jeune s'est mis à rire, mais l'homme a continué en disant ceci. Il dit, tu sais, le plus gros miracle de l'Église, c'est pas juste la résurrection. C'est qu'il y a des gens tellement différents qui s'endurent dimanche après dimanche sans se lancer de chaise. Il continue en disant, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, trouvez-vous gentils les uns les autres. Il y a différentes personnalités dans l'Église. Et ça, ce que ça veut dire, dit le monsieur, ça prend de la pratique, et souvent. Maintenant, le Seigneur savait qu'on avait besoin de ce commandement-là, aimons-nous les uns les autres, parce qu'honnêtement, c'est pas naturel d'aimer tout le monde, vraiment pas, là. Parmi la centaine d'expressions les uns les autres que l'on trouve dans le Nouveau Testament, avez-vous déjà remarqué qu'on n'a jamais vu « humiliez-vous les uns les autres »,« surveillez-vous les uns les autres », mettez-vous de la pression les uns sur les autres. Avez-vous déjà vu ça? Embarrassez-vous les uns les autres. Coupez la parole les uns des autres. Cherchez à gagner les uns sur les autres. Sacrifiez les uns contre les autres. Faites-vous honte les uns les autres. Gérez la vie des autres. Confessez les péchés des autres. Augmentez la souffrance des autres. Pointer les défauts les uns des autres. On voit pas ça. Et la raison qu'on voit pas ces expressions-là dans le Nouveau Testament, c'est justement parce que la façon dont on se traite les uns les autres révèle vraiment notre vision de Dieu. Ça révèle le genre de Dieu auquel on va croire. Mais dans le verset 7, dit ceci, « Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Ces deux expressions-là, « née de Dieu, connaît Dieu », c'est des expressions qui font référence au salut. En d'autres mots, ils ont une relation intime avec Dieu. Verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il le répète encore au verset 16, « Dieu est amour. » Voici la logique ici. Là. Si Dieu est amour et que tu es rempli de Dieu, tu vas aimer, n'est-ce pas? Tu dis avoir Dieu dans ta vie, être né de Dieu, tu dis connaître Dieu, alors tu vas aimer. Ce qu'il laisse entendre, c'est que tu ne peux pas prétendre connaître Dieu et être dans la vérité. Si tu vis dans la haine, tu es irritable tout le temps, tu es incapable de pardonner, tu es rancunier, puis tu insultes les autres à tout bout de champ. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Car Dieu est amour. Maintenant, c'est pas le seul attribut, mais c'est certainement un attribut de Dieu. Dieu a plusieurs attributs. On n'en connaît pas le nombre exact dans les Écritures. Il y en a qui arrivent avec des chiffres comme 40 et tout ça, là, mais il y a toutes sortes d'attributs. Donc, comme par exemple, Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement ni fin. Psaume 92. Dieu est immuable. Il ne change pas. Il ne change jamais. Il est omniscient. C'est qu'il connaît tout. Il est omnipotent. Il peut tout. Il est omniprésent, il est partout en même temps. Jérémie 23, 24, psaume 139. Il est souverain. Il contrôle toute chose. Il est juste, il est saint, il est miséricordieux, fidèle, patient, vérité. Il est bon, il est sage et il est amour. Si jamais tu n'as pas lu le livre du G.I. Packer, « Connaître Dieu », c'est un must. C'est magnifique. Il fait une étude suivie de tous les attributs de Dieu dans son livre. C'est tellement édifiant et c'est en français, c'est vraiment bien. Maintenant, Dieu possède toute une série de perfections puis d'attributs, là. Mais Jean parle ici de l'une de ces perfections-là, qui est l'amour. Et dans le contexte, Jean est en train de nous dire que nous aimer les uns les autres, c'est vraiment le signe révélateur que nous sommes en communion avec Dieu. C'est son point ici. Si j'ai de la difficulté à aimer un membre de la famille de Dieu, c'est parce qu'au départ, il y a aussi un problème dans ma relation avec Dieu. Ça commence là. Quand l'amour de Dieu brûle de l'intérieur, tu es rempli de Dieu. Tu ne peux pas rester caché parce que Dieu est amour. Bien, cet amour-là qui s'imprègne en toi finit toujours par atteindre ceux qui t'entourent. Toujours. Ça va te conduire vers les autres. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, je suis allé dans l'adolescence, j'ai fait partie des scouts. Puis à un moment donné, ils nous ont amenés au camp Edfi dans les Laurentides. Et puis là, ils nous ont montré comment ça marchait, une boussole. J'avais jamais vu ça, là, mais il y a des boussoles. Et puis, là, ils nous expliquaient comment ça marche, tout ça. Le petit, là, oui, c'est demain que ça marche. C'est beau. Là, ils nous ont envoyés à quelque part dans la forêt perdue. Puis là, il fallait se retrouver et se rendre sur un point cible qui était un feu. Il y avait un feu. C'était la nuit. Imagine, c'était la nuit, là, il faisait noir. Fait que là, il fallait se retrouver juste par la boussole, tu sais. Et puis, alors, vous imaginez, c'est la première fois qu'on travaillait avec les jeunes, travaillaient avec les boussoles. Donc, vous pouvez vous imaginer que, heureusement qu'il y avait un feu, on voyait quelque chose d'éclairé, parce que sans ça, on se serait retrouvé une couple de kilomètres plus loin. On était pas mal tous éparpillés. Il n'y en avait pas beaucoup qui ont trouvé vraiment directement qui sont tombés sur le foyer, sur le feu. Mais en fait, ce qu'on a réalisé, ce qu'ils nous enseignaient ça, c'est là qu'on a compris qu'une boussole indique vraiment la direction grâce à l'attraction magnétique de la Terre. Elle pointe automatiquement vers le nord comme un point de référence. Maintenant, lorsque l'attraction magnétique de l'amour de Dieu attire ton attention, elle va toujours te diriger, toujours, toujours, toujours vers un autre frère ou une autre sœur dans la famille de Dieu qui a besoin d'être aimé. Et si on écoute attentivement la voix du Saint-Esprit, tu vas pouvoir l'entendre de temps en temps te dire, « Je veux que tu répondes à ce besoin-là. Je veux que tu réconfortes cette personne. » Ou encore, tu as entendu qu'une telle personne est malade, j'aimerais ça que tu l'appelles, que tu l'encourages. Si nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, son radar va nous montrer comment toucher quelqu'un d'autre comme nous, on a été touchés nous-mêmes. Marcher près du cœur de Dieu va forcément nous faire marcher vers le cœur des autres. Romains 5, 5 dit « L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu que le Saint-Esprit déverse en nous cherche toujours quelqu'un à aimer autour de nous. Plus on s'approche de Dieu, plus notre cœur s'ouvre aux autres. C'est pour ça que Dieu nous dit, aime comme tu crois. Jean ajoute, regarde la croix. Au verset 9, il va dire, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ce que Jean est en train de dire ici, c'est qu'aimer, c'est répondre à l'amour donné. L'amour véritable tel que Dieu conçoit prend sa source dans le don de Jésus pour nous. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il l'a incarné à la croix. Verset 10 dit « Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Un seul mot dans l'original, un gros mot, « propitiation ». Mais bon sang, on a besoin d'apprendre ça par cœur, les amis. Le mot propitiation. On se pratique? Propitiation. J'ai confiance en vous. Vous pouvez faire une meilleure job que ça. Là. Propitiation. Yes, ah oui, je savais que vous l'auriez. C'est bon. Un seul mot dans l'original. Il exprime cette réalité profonde. Jésus a été offert pour apaiser la justice de Dieu et nous rendre favorables à ses yeux. Par son sacrifice, il a obtenu le pardon de nos péchés et a rétabli la relation entre Dieu et nous. Voyez-vous comment c'est riche, ce mot-là, propitiation? C'est ce que le mot propitiation signifie. Jésus s'est offert pour nous réconcilier avec Dieu. Il a apaisé sa justice, obtenu notre pardon et rendu Dieu favorable à des pécheurs comme nous. Verset 17 dit, « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. » Si tu es en Jésus, tu peux avoir cette assurance. Tu peux avoir de l'assurance au jour du jugement. Il n'y a pas de peur à avoir dans l'amour, nous dit le verset 18. Romains 5:1 dit ainsi donc, « Déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, Jésus a subi ce qu'on méritait, le jugement qu'on méritait. C'est pour ça que nous sommes maintenant en paix avec Dieu et tranquilles devant l'éternité. Celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Notre assurance repose sur Jésus et sur son sacrifice. Le verset 14 dit ceci, « Et nous, nous avons vu et nous attestons une déclaration de foi, une profession de foi. On atteste que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Jean réitère ici que Jésus est le Fils de Dieu. Il l'a dit à maintes reprises depuis le début de sa lettre pour corriger justement cette erreur qui circulait. On en a parlé plusieurs fois, mais il faut revenir au contexte-là, c'est tellement important à cause des versets qui suivent. Il y avait tout ce contexte-là, ce mouvement-là qui est devenu très populaire, surtout au IIe siècle, le gnosticisme, qui disait quoi? Ces gens-là méprisaient les chrétiens, ils se trouvaient supérieurs, il n'y avait pas d'amour vraiment pour les chrétiens. C'est des gens qui ne croyaient pas que Jésus était venu, qui s'était fait chair, qui avait quitté le ciel pour venir, s'est fait un homme, parce que pour eux autres, le corps, c'était de la chair, c'était mauvais, c'était pas bon. Donc, eux autres croyaient juste à l'esprit. Donc, ils pouvaient faire ce que tu voulais avec ta vie, tu pouvais comme... Pour eux autres, il n'y a pas de péché. Donc, le premier problème, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas que Jésus s'était incarné. Ils ne croyaient pas à l'incarnation de Jésus. Ils ne croyaient pas, deuxièmement, au péché. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Et troisièmement, ils ne croyaient pas à l'amour. Ils n'aimaient pas eux autres. Ils se sentaient supérieurs, méprisaient les chrétiens. Ils disaient qu'eux autres, c'était les initiés, les gens supérieurs. Ils regardaient de haut les chrétiens. Alors, c'est pour ça que Jean parle tant d'amour. Il dit, tu ne peux pas prétendre connaître Dieu, pas aimer. Ça ne se fait pas. Alors, eux se basaient sur leur connaissance, leur assurance de ces faux enseignants-là, basaient leur assurance et d'être dans la vérité par la connaissance mystique, les initiés. Maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent se baser sur toutes sortes de choses pour avoir une assurance qu'ils iront peut-être au ciel, comme les bonnes œuvres. On fait des bonnes œuvres, puis peut-être je vais aller au ciel. Mais c'est pas ce que les Écritures disent. Les Juifs, de leur côté, avaient une autre perspective. Ils basaient leur assurance sur leur descendance. Le fait que je descends d'Abraham, Abraham c'est le premier juif, le fait qu'on est juif, on vient de la famille juive, on est correct, on a de l'assurance, on va être correct au ciel, le ciel nous attend. Alors, c'était leur conviction. C'est pour ça qu'il y a tout un entretien avec Jésus dans Jean 8, entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens veulent faire mourir Jésus. Et Jésus va dire ceci, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Maintenant, ce que Jésus entend par le Père, ici, c'est le diable. Il va dire, non, non, votre Père, c'est le diable. Maintenant, les autres, tout de suite, ils réagissent. Jean, au verset 39, 8-39, il va dire, les pharisiens répondent, notre Père, c'est Abraham. On est correct, c'est Abraham. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous sommes sauvés, on a la vie éternelle, le ciel nous attend parce que notre Père, c'est Abraham. Pour vous montrer à quel point Ils basaient leur assurance de la vie éternelle sur le fait qu'ils étaient de la descendance d'Abraham. On peut lire dans la littérature juive. Maintenant, je ne parle pas de la Bible, c'est la parole de Dieu. Je parle de toute cette littérature qui a été écrite chez les Juifs lors des premiers siècles, comme le Talmud, le Midrash. On peut voir l'un de leurs écrits qui s'appelle Genèse Rabba. Il y a un rabbin, le rabbin Lévi, qui va dire ceci, va déclarer, « Dans le monde à venir, Abraham est assis à la porte de la Géhenne, ne permettant à personne d'entrer s'il porte le sceau de l'Alliance. » En d'autres mots, Abraham, là, c'est notre père, Abraham nous attend là, aux portes de l'enfer, là, puis il n'y a aucun danger qu'on entre là parce que le fait que c'est notre père. On va être sauvés, aucun problème. Et ça, c'était leur perspective, leur conviction. Alors, vous pouvez imaginer, hein? Pour eux, Abraham avait un rôle protecteur puis intercesseur pour les Juifs. Mais Jésus va leur dire, vous êtes dans le champ, les amis. Votre père, c'est le diable, et mon père, c'est Dieu. Mais notre assurance, chers amis, se base sur Jésus. Le verset 13, 15 est très clair. Il dit, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, quand on tombe dans le péché, puis ça va arriver, on n'est pas parfait. Quand on tombe dans le péché, le diable s'amuse, il en profite pour essayer de nous détruire, nous abaisser, nous humilier, nous écraser, puis nous remplir de culpabilité, là. Mais lorsqu'on pêche, le Saint-Esprit, lui, fait le contraire. Satan et le Saint-Esprit, Saint, le Saint-Esprit, vont tous les deux pointer notre péché. Parce que le péché, c'est sérieux, on ne veut pas prendre ça à la légère. Mais ils ne le font pas de la même manière, ils ne le font pas aussi, ils le font pour des raisons différentes. Satan, lui, le fait pour nous écraser avec nos échecs. Le Saint-Esprit, par contre, nous rappelle qui on est vraiment en lui, notre identité, que nous sommes des enfants de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Satan commence par ce qu'on a fait et utilise la honte pour nous abaisser. Jésus, lui, part du statut parfait qu'il nous a donné en mourant pour nous et utilise la puissance de sa résurrection pour nous aligner envers ce statut. Tu es un enfant de Dieu. L'un nous rejette et nous tire vers le bas, alors que l'autre nous ramène et nous élève. J'aime bien comment Jean Calvin commente le verset 17 et 18. Il dit, « Les croyants s'approchent du tribunal de Dieu avec confiance et joie, parce qu'ils sont convaincus de son amour paternel. » C'est notre Père. Calvin poursuit en disant, « Quand l'amour de Dieu est véritablement en nous, il produit une transformation intérieure qui nous rend semblables à Christ. Cette ressemblance donne une paix profonde, même face au jugement, parce que ce n'est plus notre justice qui compte, mais celle de Christ en nous. » Voyez-vous, le mot « propitiation », c'est un mot qui change tout. Il dit que Jésus a été offert pour nous. Il a pris notre place, porté notre peine, obtenu notre pardon et rendu Dieu favorable à ceux qui ne méritaient pas. Dieu n'a pas juste parlé d'amour, il a envoyé son propre Fils, le Seigneur Jésus. Et devant un tel amour de la part de Dieu, le Seigneur nous demande de nous aimer en retour. Il va dire au verset 11, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour que je reçois de Dieu m'appelle à aimer activement et concrètement. Donc, aime comme tu crois. Regarde la croix et fais voir Dieu. » Verset 12 dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. » Maintenant, qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ici? « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ça veut dire quoi ça? « Son amour est parfait en nous. » C'est une phrase qui est difficile. Difficile à comprendre. Mais si je comprends bien ce qui est dit ici, ça signifie que l'amour de Dieu atteint sa plénitude quand on s'aime. En d'autres mots, Dieu ne nous a pas comblé de son amour simplement pour nous impressionner, Et ça s'arrête là. Il nous a comblés de son amour afin qu'on soit transformés et afin d'aimer en retour. C'est à ce moment-là que son amour est accompli dans sa fonction, son but, son don, précisément quand on aime. Maintenant, s'il déversait son amour sur nous, puis on disait, « Hey, c'est cool, merci, c'est vraiment cool », puis ça s'arrêtait là, bien, si on quitte sans aimer personne, alors son amour ne serait pas accompli en nous. Son amour ne remplirait pas la fonction et le but pour lesquels il a été donné. Et c'est quoi cette fonction et cette raison d'être? Bien, personne n'a jamais vu Dieu, là. Mais si on aime, comme Dieu aime, son amour est accompli en nous. C'est qu'on démontre quelque chose de la présence et du caractère de Dieu lui-même par l'amour chrétien. C'est qu'on démontre Dieu. On ne peut pas montrer Dieu, on ne peut pas montrer une image de Dieu, mais ce qu'on peut montrer, c'est notre vie transformée par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est vrai, on n'est pas parfait, là. Mais le chrétien peut dire, « Je ne suis pas ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Et grâce à Dieu, je ne suis pas encore ce que je serai. » Tu dirais ça à ton mari ou à ton épouse quand tu vas avoir des chicanes. « Je ne suis pas encore ce que je serai, chérie. Sois patiente. Sois patient, ça s'en vient. » Je vais inviter les musiciens à s'approcher. On peut humblement dire aux gens, on n'est pas parfait ici à l'église de Sentier. Mais il y a beaucoup d'amour ici. Et ce que vous allez voir, c'est des gens qui aiment Jésus et qui veulent grandir en lui. Ça, tu vas voir ça. C'est Jésus qui a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres, n'est-ce pas? Quand on aime comme Jésus, Dieu se manifeste au monde. Aimer, c'est rendre Dieu visible. L'amour de Dieu est parfait en nous, c'est-à-dire que son but s'accomplit à mesure qu'on aime de plus en plus. Et nous regardons en arrière et nous disons, oui, je sais que je n'aime pas comme je le devrais, mais j'aime plus qu'avant, je veux aimer davantage, et il y a quelque chose en moi qui m'attire vers l'amour comme jamais auparavant. Voyez-vous, l'amour de Dieu est parfait en nous, signifie que notre amour rend l'invisible visible. Alors, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons comme on croit. Regardons, en regardant la croix, car c'est là qu'on va faire voir Dieu autour de nous. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, oui, effectivement, tu nous as tellement aimés. Tu l'as prouvé à la croix. Tu nous as tant aimés que tu as envoyé ton Fils unique souffrir le martyre, la persécution, le mépris, le rejet, l'humiliation et tout ça pour nous, Seigneur, pour des gens, honnêtement, qui ne le méritaient pas. Merci pour la propitiation, pour cette victime expiatoire qu'est Jésus, pour le salut en Jésus, et cette assurance, cette paix que nous avons, cette tranquillité que nous avons dans nos cœurs, qu'un jour nous serons face à face avec toi, notre cher Papa, notre Père céleste. Nous te louons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.